cette année, nous intervenons en faisant une sorte de couplage. Là, ce n'est pas un binôme, c'est un trinôme. Un couplage entre un cadrage conceptuel que je vais faire. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, léger, sur la notion. Et puis ensuite, Sébastien Clerc qui parle, lui, du terrain, des expériences, avec évidemment, ce qui est intéressant dans tout ça, le retour d'expérience dans la deuxième partie de cette séance. Alors moi, donc, je vais faire le cadrage sur les notions de discipline, d'interdisciplinarité, et je parlerai peu de collaboration pédagogique, mais tout simplement parce que il me semble que les définitions que je vous aurais données ensuite cadrent en quelque sorte la réflexion pour la suite. Alors, les points que j'aborde, c'est les deux sens du mot discipline, l'origine et les avantages de l'approche disciplinaire, les inconvénients de l'approche disciplinaire, et puis quelques réflexions sur la collaboration interdisciplinaire ou transdisciplinaire, avec un point d'interrogation, parce que ce sont des notions qui sont, notamment celles de transdisciplinaire, qui donnent matière aussi à interrogation et définition. Alors, les deux sens du mot discipline, il faut regarder les choses en face. Le mot discipline qu'on utilise au sens disciplinaire et le mot discipline qu'on utilise au sens, je dirais, cognitif, au sens académique, ont strictement la même origine, puisque une discipline, c'est l'apprentissage de quelque chose sous la direction d'un maître qui impose physiquement ou par la crainte et le respect, la crainte et le respect, ou le respect, l'apprentissage, avec l'usage de moyens disciplinaires, effectivement. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément en battant les gens comme plâtre, hein, mais réellement avec une contrainte d'apprentissage. Et puis, ensuite, à partir du XVIIIe siècle, c'est tardif, à partir du XVIIIe siècle, discipline en vient à désigner ce qu'on apprend dans le cadre de cet apprentissage disciplinaire, donc c'est-à-dire les choses en tant qu'elles forment une partie définie, spécifique, séparée de la connaissance, donc des mathématiques, de la chimie, de la géographie, de la comptabilité, de la littérature, du chant, etc. Mais c'est l'origine commune. Au départ, si lui, c'est une forme d'enseignement, suivre une discipline pour ensuite apprendre un contenu disciplinaire. Alors, cela dit, ce double sens est aisément compréhensible. Bon, l'instrument, j'ai donné quelques images, hein, de l'instrument de la discipline. Il y a une scène peut-être vous voyez, tirée d'allemand au XIXe siècle, avec on bat les enfants. Puis ça, c'est une férule pour le taper dessus aussi. Mais rassurez-vous, c'est un peu plus. Alors pourquoi, explication, c'est pourquoi en fait la contrainte disciplinaire. Parce que pendant effectivement assez longtemps, la pédagogie a été brutale. Alors pourquoi la contrainte disciplinaire ? Mais parce que d'abord, dans des sociétés où les gens avaient une espérance de vie très courte, l'apprentissage des enfants commençait très très tôt, hein, et y compris l'apprentissage cognitif. C'est-à-dire que très souvent, je veux dire, il y a une fameuse histoire, le philosophe anglais Stuart Mill, il savait le latin, le grec à 6 ans. L'apprentissage des enfants commençait très très tôt, à un âge où ils ont besoin d'être dressés, où évidemment on ne peut pas forcément faire appel à leur compréhension, avant l'âge de raison en quelque sorte. Et puis surtout, il y avait beaucoup de matière, ça, il ne faut pas l'oublier, jusqu'au 19e siècle, il y a énormément de matière qui ne relève pas du tout de la connaissance. Hein. On apprend des dates, on apprend des chronologies, on apprend par cœur des choses, mais on n'apprend pas des choses relevant de la compréhension et de la connaissance, puisque la connaissance s'est développée relativement, hormis peut-être les mathématiques, mais la connaissance se développe surtout à partir du 19e siècle. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'enseignement de la physique avant le 19e siècle, il y a encore moins d'enseignement de la chimie, il n'y a guère que les mathématiques qu'on enseigne, et puis on enseigne aussi la versification, des choses comme ça, mais qui ne relèvent pas de la connaissance. Donc on apprend surtout par cœur et je dirais contraint. Et donc on demande moins de compréhension que de soumission. Et je dirais que le moment où ça bascule, c'est très frappant et c'est très intéressant quand on fait des études de philosophie là-dessus. Le moment où ça bascule, c'est au XVIIe siècle avec le sujet cartésien et avec l'apparition de l'individu. Sinon, avant, on répète la tradition, on l'apprend par cœur. Et à partir du XVIIe siècle, on commence à voir apparaître la raison et le libre examen, c'est-à-dire que les gens ne doivent adhérer à quelque chose que s'ils sont d'accord, s'ils donnent leur consentement, s'ils ont compris. Et donc, ça mène sur la voie d'un enseignement qui sera consenti et qui sera à base de compréhension intellectuelle. Alors, le premier qui a parlé de ça est très bien, mais il faut dire qu'il avait, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque, subi un enseignement extrêmement draconien. C'est Montaigne dans les Essais, mais lui, c'est un précurseur. Mais ensuite, le premier grand traité d'éducation qui explique qu'il ne faut pas battre les enfants, qu'il faut s'adresser à leur raison, qu'il faut leur faire comprendre, etc., c'est John Locke. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais. Et puis alors ensuite, ça va mener à toute la pédagogie, je dirais, de consensus qu'on trouve à partir de Rousseau et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc, explication de la discipline et de la contrainte. Alors maintenant, j'en viens à l'autre aspect, c'est non plus le fouet et les règles sur les coups de règle sur les doigts, mais la discipline comme contenu intellectuel. Alors, il y a plusieurs facteurs. Je vous ai fait passer des textes, dont un qui était assez touffu, mais il est comme ça, on n'y peut rien. C'est un texte d'Auguste Comte. C'est que c'est vrai qu'à partir du XIXe siècle, les connaissances se développent considérablement, mais au fur et à mesure qu'elles se développent, et très rapidement, elles se spécialisent. Et le texte d'Auguste Comte que je vous ai fait passer, c'est un texte sur le fait que plus la connaissance se développe, plus elle se spécialise. Il dit à un moment dans le texte que je vous avais fait passer que chez les anciens, il n'y avait pas de spécialisation, mais il dit, mais effectivement, la connaissance n'était pas très développée. C'est vrai qu'on pouvait faire tout le monde, un savant pouvait maîtriser toutes les connaissances de son temps, ce qui n'est plus le cas à partir du XIXe siècle. Donc il y a un aspect, je dirais, de développement des connaissances qui conduit à la spécialisation des disciplines et au découpage du savoir en disciplines. Mais il y a un autre aspect qui, lui, est beaucoup plus pédagogique et sur lequel il faut beaucoup insister, parce que ça nous amène directement à l'époque contemporaine, c'est que les disciplines se forment parce qu'on a besoin de former des groupes d'âge et que, au fur et à mesure que le XIXe siècle avance, on a besoin d'une formation de masse. C'est-à-dire, du coup, qui dit formation de masse dit normalisation des choses à enseigner, normalisation aussi de la sélection des professeurs, c'est-à-dire que c'est bien joli, mais quand on doit enseigner en masse, il faut qu'on ait beaucoup de professeurs, et si on veut avoir des professeurs, il faut les recruter d'une certaine manière, si on veut les recruter, il faut qu'on normalise les procédures de sélection, et puis on a besoin aussi, ça c'est tout le courant du XIXe siècle, et nos sociétés sont absolument dans le même cas, rien n'a changé, on a besoin de pourvoir aux besoins sociaux et économiques. Alors au XIXe siècle, c'est le besoin d'alphabétisation qui a été un des grands enjeux du XIXe siècle, c'est la formation de cadres qualifiés, c'est l'orientation professionnelle, tout ça se met en place graduellement, avec notamment avec la Troisième République, mais ça commence avant, avec la Seconde République aussi, 1848, ça a été un grand moment de création scolaire. Il faut construire un système éducatif qui réponde aux besoins sociaux et économiques. Et le XIXe siècle, c'est le siècle de la connaissance, mais aussi le siècle de la normalisation. Hein, on crée des normes. Et la mise en forme et en système. On systématise les formations et donc on découpe des disciplines de manière à les enseigner. Je vais vous donner ces deux images qui sont assez drôles. C'est une image du XVIIe siècle, c'est-à-dire une classe bordélique normale. Vous voyez, il y a un maître et puis il y a des marmots partout et ça part dans tous les sens. Il y en a qui jouent, il y en a qui essayent d'apprendre, il y en a qui se battent, etc. Et puis vous avez là la classe du XIXe siècle, la normalisation. Là, c'est une classe de chant, hein, c'est-à-dire au XIXe siècle. Les choses se sont singulièrement mises en ordre. Et on a même augmenté, comme vous voyez, le taux d'encadrement, puisqu'il y a deux professeurs. Alors, quels sont les avantages de l'approche disciplinaire? Parce qu'on peut la remettre en cause, mais il y a des avantages tout à fait réels. Il y a d'abord un avantage qui serait d'égalité. Il ne faut jamais oublier ça. C'est que si on normalise l'enseignement, ça veut dire qu'on va pouvoir donner le même enseignement à tout le monde. On définit des programmes et tous les élèves de telle classe d'âge devront avoir suivi ce programme. Donc, il y a, je dirais, un aspect social, politique, d'égalité dans, dans l'institution des disciplines. Et puis, qui dit discipline dit qu'on va élaborer des programmes. Ça, vous connaissez, hein, on connaît tous les programmes. Et du coup, ça permet l'évaluation des progrès de l'apprentissage individuel. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un élève suit le programme et comment est-ce qu'il s'élève dans une discipline. Ça permet aussi, et ça a commencé aussi très tôt, ça c'est vers la fin du 19e siècle, l'évaluation de l'apprentissage du groupe. Il y a eu beaucoup de travaux, et alors à l'époque, très curieusement, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a ces fameuses questions de l'évaluation de tous les élèves de CM2 qui posent problème, mais les procédures d'évaluation des performances de groupe ont commencé à la fin du 19e siècle, et à l'époque, c'était un thème de travail profondément républicain et de gauche, c'est-à-dire évaluer comment l'ensemble d'une population pouvait arriver à suivre des programmes et avoir des performances à peu près correctes. Le fameux QI, le quotient intellectuel de Binet, hein, Binet, c'est Alfred Binet, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. C'est aussi la psychotechnique, la docimologie de Pierron, les premières études sur les apprentissages de groupe et les performances collectives. Ça permet aussi l'approche disciplinaire, l'industrialisation des matériels pédagogiques. Alors, nous le voyons souvent sous l'aspect désastreux, mais industrialisation des matériels pédagogiques, c'est-à-dire créer des manuels, créer des supports de cours. Et puis, l'approche disciplinaire, vous le savez bien, ça sécurise les enfants. On a fait le programme, hein, les parents, les professeurs et l'administration. Hein, on a terminé le programme, on a fait le programme, on n'a pas fini le programme, comment est-ce qu'on va s'en sortir avec le programme, etc. Bon, ça, c'est des thèmes qui sont bien connus, mais il faut voir que c'est des avantages, hein, parce que si vous dites aux parents que vous faites, par exemple, des enseignements très largement à la carte, dans un premier temps, ils savent littéralement plus où leur enfant en est, et si ça se trouve, l'enfant aussi ne sait plus où il en est. Alors, les inconvénients, je les résume, mais je ne vous dis rien qui soit tout à fait surprenant, c'est que dans l'approche disciplinaire, on va procéder sur des sujets abstraits au lieu des objets concrets. Alors, un exemple aussi très contemporain et intéressant, c'est qu'on va enseigner la géologie et on va laisser de côté le globe. Le globe en tant qu'il est non seulement de la géologie, mais il est aussi du climat, il est aussi de la géographie, il est aussi du magnétisme, il est aussi des tas d'autres choses. On va enseigner la littérature, et on va pas trop s'intéresser aux œuvres elles-mêmes. Bon, bien évidemment, un autre inconvénient, c'est la division des enseignements et l'absence de communication. Alors, moi, on vous a dit, j'ai fait un livre qui s'appelle « La philo 100% ado », mais qui sort de 3 années d'expérience d'enseignement de la philosophie dans un collège. Et j'étais très surpris de voir qu'au collège où j'étais, le collège Édouard Herriot, à Maison Alfort, les enfants ne faisaient absolument pas le lien entre mathématiques et physique. C'était deux programmes complètement séparés et il n'y avait rien à voir. C'était impossible de leur faire comprendre que, au fond, très souvent, par exemple, surtout, beaucoup de progrès mathématiques sont venus de besoins physiques. Ça leur était pas possible. Bon, division des enseignements, aujourd'hui, on le voit dans l'enseignement des arts. Il y a l'enseignement de la littérature, du français. Enfin, il y a encore français et littérature, c'est pas la même chose. C'est pas de l'art. Et l'art, c'est encore autre chose à côté. Alors, c'est quoi? Mais c'est pas de la musique, etc. Bon, absence de perspective transversale, difficulté, alors ça c'est un point intéressant, c'est la difficulté des élèves pour suivre au même niveau et au même rythme, parce que à partir du moment où vous formez un système disciplinaire, d'une certaine manière, les élèves d'une classe sont censés suivre au même niveau et au même rythme d'avancement dans des disciplines différentes. Or, effectivement, ce qu'on constate, c'est que souvent les gens ne sont pas du tout au même rythme sur les disciplines, qu'il y a des décalages, il y a des retardements, ou il y a des avancements aussi quelquefois. Bon, les disciplines aussi formatent les approches, y compris, quand je dis formater, c'est formater mentalement. Dans la dernière série des conférences d'université de tous les savoirs, par exemple, c'était des ingénieurs qui s'exprimaient, qui avaient fondé des boîtes de biotechnologie nouvelle, des start-up, et disaient que les biologistes qu'ils recrutaient étaient trop formatés, justement, par l'enseignement de la biologie et même par la recherche de la biologie actuelle. Ils n'étaient du coup très peu innovants. Et ils cherchaient à recruter ailleurs ou dans d'autres pays des gens qui ne soient pas formatés de la même manière. Et puis évidemment, l'approche disciplinaire est très éloignée de la démarche réelle de la connaissance, parce que la plupart du temps, la démarche de la connaissance regroupe plusieurs approches. Et puis, le problème des déficits des disciplines, c'est que très souvent, ça ennuie. Une discipline, c'est ennuyeux, parce que ça, c'est sec, c'est construit de manière assez formelle. Alors, quelques mots maintenant sur les modes d'approche, parce qu'encore une fois, je vais parler même un peu moins longtemps qu'il est prévu, parce que ça fait partie, je dirais, de notre format maintenant que les interventions sont plus courtes. Quelques mots sur les modes d'approche. Alors, le mode d'approche disciplinaire, c'est un mode d'approche où on analyse les éléments de la discipline, et puis ensuite, par palier, on essaye d'aller vers du plus simple au plus compliqué, au plus difficile. On essaye d'aller des éléments au principe, avec dans la mise en œuvre d'un type de connaissance. Donc très souvent, l'approche disciplinaire, pas pour la géographie, je pense pas, mais c'est une approche assez formalisée et formalisatrice. Moi-même, après avoir passé l'agrégation de philosophie, j'ai repris des études de mathématiques, et c'était l'époque où la mathématique enseignée dans les lycées était très formalisée. Alors là, c'était vraiment... du coup, moi, j'étais très à l'aise, parce que ça correspondait plus à une approche conceptuelle, mais c'était une approche qui était très peu intéressante concrètement, qui était très démobilisatrice pour pas mal d'élèves, pour les jeunes élèves, et qui était, à mon avis, extrêmement éloignée du processus effectif de travail en mathématiques. Mais c'était des beaux édifices, ça marchait bien. On partait des éléments et on montait, on avait des mathématiques très formalisées. Alors, face à l'approche disciplinaire, qu'est-ce qu'on peut recommander? Si vous avez jeté un coup d'œil au texte d'Auguste Comte, Auguste Comte disait que cette grande spécialisation contemporaine finalement fait qu'on perd le point de vue de la généralité. Alors lui, il avait inventé un remède. C'était que les philosophes qui allaient être les spécialistes de la généralité, c'était ceux qui justement auraient le point de vue général sur la diversité des disciplines. Inutile de dire que c'est un espoir qui a été déçu. Et alors, ce qui reste, c'est l'approche interdisciplinaire ou multidisciplinaire, qui consiste à partir d'un objet, d'un problème, d'un événement, d'un phénomène, et de voir en quoi plusieurs disciplines contribuent à le faire comprendre. Donc ça, c'est l'approche interdisciplinaire, c'est prendre un objet et ensuite voir comment on peut l'approcher et le comprendre à partir de plusieurs disciplines. Donc il faut prendre un objet concret. Cet objet concret, ça peut être le globe, c'est-à-dire il peut être énorme, un problème, un événement, la Révolution française, un phénomène, etc., et voir en quoi plusieurs disciplines. Et puis, juste, et je termine là-dessus, juste maintenant une précision sur le mot transdisciplinaire qui est aujourd'hui à la mode. Alors, le mot l'interdisciplinaire, c'est quelque chose, encore une fois, qui consiste à concentrer plusieurs disciplines sur un problème. Le transdisciplinaire, c'est très différent. Transdisciplinaire, c'est plutôt une approche en termes de découverte. Donc, je crois que ça ne nous concerne pas beaucoup ici. C'est de voir quelles ressources tirer un peu de n'importe où, y compris en dehors de disciplines ou de disciplines à venir, on pourrait imaginer et faire intervenir pour comprendre une chose. Donc c'est essayer vraiment d'innover complètement en projetant quelque chose, même de manière un peu aberrante, sur certains objets. Je donne un exemple. Bon, ça n'a pas donné des conséquences merveilleuses, mais c'était assez intéressant. C'est quand on s'est mis à appliquer, de transdisciplinaire, quand on s'est mis à appliquer la physique des interactions des mouvements browniens aux fluctuations boursières. C'est des travaux qui ont commencé au début du XXe siècle. C'est un mathématicien très original qui s'était mis à appliquer l'approche du mouvement brownien, l'approche des mouvements dans les gaz aux fluctuations boursières. Et ça a donné, dans les années récentes, toute l'ingénierie financière qui a conduit à la crise. Mais c'est pas les principes, c'est pas du tout les principes, c'est pas du tout les principes, si vous voulez, qui étaient en cause. C'est l'usage complètement délirant qui en a été fait. Mais en fait, c'était une innovation très importante. Et c'était complètement, alors là, transdisciplinaire, aller traverser des mathématiques et de la physique jusqu'aux fluctuations financières, ça paraissait quelque chose de bizarre. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Je termine sur la dernière chose, sur les indications et les contre-indications de la collaboration interdisciplinaire. Ça, c'est vraiment problématique. C'est-à-dire que si ça se trouve, tout le monde, on pourra en dire, ne pas être d'accord. L'avantage de la collaboration interdisciplinaire, c'est susciter l'intérêt et réveiller l'attention. Ça, je pense que vous en avez tous l'expérience. C'est aussi faire comprendre le sens et l'utilité des disciplines rapprochées. Quand je faisais mes interventions chez les lycéens, chez les collégiens, j'arrivais, moi, philosophe, à leur faire comprendre quelquefois à quoi pouvaient servir les mathématiques, en leur parlant de Galilée, en leur parlant de choses assez simples au XVIIe siècle, faire comprendre que des disciplines qui leur paraissent très abstraites et très sombres ont une vraie utilité et peuvent même devenir passionnantes quand on les met en rapport avec des objets. Ensuite, faciliter l'apprentissage, mais grâce à l'intérêt, mais les risques, il y en a. On risque d'avoir une pédagogie du vague, c'est-à-dire on est sur des projets, des objets, et puis on ne sait pas trop ce qu'on fait. Le risque, c'est une perte d'intérêt pour les disciplines, c'est-à-dire les gens n'apprennent plus les fondamentaux des disciplines dont ils continuent à avoir besoin. C'est bien joli de voir que ça s'applique, et puis que c'est assez fascinant de voir comment ça s'applique, mais il reste à savoir faire basiquement les exercices des éléments des disciplines. Et puis, ça conduit forcément aussi, une approche interdisciplinaire conduit forcément à se demander quel est l'intérêt des disciplines. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça pose le problème de est-ce qu'on a besoin, au fond, de toutes les disciplines qu'on enseigne actuellement dans le curriculum ou dans le cursus. C'est vrai que, par exemple, je le donne sur une chose qui peut être choquant, c'est que quand on, aujourd'hui, par exemple, si on a une approche interdisciplinaire, on aura un regard probablement assez différent sur l'utilité de l'histoire. Dans quelle mesure est-ce que l'histoire est vraiment indispensable ou pas? J'en sais rien, je veux dire, c'est une question comme ça, mais c'est-à-dire se demander, au fond, quelles sont les disciplines qui sont mobilisables quand on a des approches interdisciplinaires. Ça conduit à s'interroger sur la nécessité des disciplines. Je ne dis pas que l'histoire ne sert à rien, c'est pas tout ça, mais dire, quelquefois on se dit, au fond, est-ce que c'est vraiment indispensable de faire autant d'histoire, etc. En revanche, la géographie, vous voyez que la géographie, quand on a des approches interdisciplinaires, vous voyez que la géographie est en fait beaucoup plus intéressante qu'elle l'est de manière disciplinaire, ce qui est un des paradoxes assez intéressants. La géographie comme discipline n'est pas forcément très intéressante. Quand on la réintroduit dans les problématiques interdisciplinaires, elle est passionnante. Voilà, je m'en tiens à ça, et je vais laisser la parole, donc je vais enlever mon PowerPoint. Et je vais laisser la parole à Sébastien.
J'aurais déjà quelques petits sujets pour les questions. Après, je sens qu'il y a des petits éléments qui est venu chaud à lancer, qui pourront faire réagir. Et on termine avec les interventions.
C'est lequel le meilleur? J'espère que c'est le bon. Hein. C'était le F, moi. Voilà, non, c'est bon.
Pardon.
Mais oui, je vais mettre.
Alors, bonjour. Je vous remercie de votre invitation. Comme Monsieur le Proviseur le disait, et j'insiste là-dessus, le but ne saurait être de la transmission. Certains d'entre vous ont davantage d'expérience que moi. C'est vrai qu'à côté de ma fonction d'enseignant, j'ai la chance maintenant d'être formateur, mais c'est devant des enseignants qui sont néo-titulaires. Le but aujourd'hui, c'est de nous enrichir par l'échange. Je précise que je suis enseignant d'histoire, donc on va déjà pouvoir rebondir un petit peu sur cette question. Je suis professeur donc de français et d'histoire. histoire-géographie. Voilà. Alors, simplement sur la pluridisciplinarité, c'est le terme que j'emploie parce qu'il est le plus englobant. Hein. Après, on rentrera dans les nuances aussi dans la partie échange. Sur la pluridisciplinarité, déjà pour pouvoir la vanter, j'aimerais partir d'un cas concret, tout simple en fait, avec une collègue d'économie et de droit qui avait à faire passer des connaissances un peu techniques sur les prud'hommes. Voilà, donc on a fait un travail pluridisciplinaire qui consistait à monter un sketch qui se passait aux prud'hommes. Voilà, et du coup, pour les élèves, évidemment, c'était beaucoup plus concret d'apprendre comment fonctionnent les prud'hommes, puisqu'ils savaient qu'ils avaient à écrire un sketch sur les prud'hommes ensuite. Les connaissances sont très bien passées, je pense, en partie grâce à ça. C'est la première chose que je voulais dire, c'est-à-dire que les projets pluridisciplinaires permettent aux disciplines, naturellement, de s'épauler les unes les autres. Le deuxième point aussi par rapport à cet exemple, eh ben je me souviens, ça m'avait assez ému. C'était une semaine avant la représentation du sketch. L'après-midi, nous devions préparer un peu la salle dans laquelle nous allions intervenir. Et je croyais que les élèves qui devaient faire le sketch n'étaient pas venus. Et c'est vrai que c'était des heures en plus des cours. Et en fait, j'ai appris par un surveillant qu'ils avaient réservé une salle de leur côté pour pouvoir s'entraîner. Et certains avaient lancé l'idée, et du coup ils l'ont fait, d'apprendre complètement leur sketch par cœur, ce que je ne leur avais même pas demandé. C'était une classe vraiment qui avait un niveau très, très faible et où les élèves avaient de grosses difficultés d'apprentissage. Voilà, ils avaient pris l'initiative par eux-mêmes d'apprendre le sketch et donc de réserver une salle pour s'entraîner en autonomie. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ça n'est pas facile, hein, et Dieu sait si on a eu des difficultés dans le cadre des projets pluridisciplinaires, je vais en parler, mais c'est vrai qu'on est souvent surpris quand on met les élèves en responsabilité, on est souvent surpris du résultat positif. Voilà. Alors le plan que je me propose pour traiter de cette question des projets pluridisciplinaires, c'est de démarrer par quelques exemples de projets pluridisciplinaires avant d'aborder l'organisation du projet pluridisciplinaire et les questions du travail en équipe, et puis de faire une présentation, et puis de discuter de la présentation de l'évaluation d'un projet pluridisciplinaire. Alors, tout d'abord, quelques exemples de projets pluridisciplinaires. Je me souviens avec un collègue de vente d'une collecte pour les Restos du Cœur que nous avions lancée. Alors lui, ça lui permettait en vente de voir la gestion des stocks, l'argumentaire téléphonique. En histoire, j'ai pu voir, puisque c'était au programme, la critique de la société de consommation en mai 1968. En français, j'ai pu travailler à un argumentaire, puisque nous avions prévu de faire des tracts à destination des élèves pour les motiver à apporter des denrées pour les Restos du Cœur et une argumentation à destination des enseignants. Voilà. Alors, comme la plupart des cours, hein, il est bon de démarrer par ce que j'appelle un document cheval de Troie, c'est-à-dire un document qui va capter l'attention des élèves et provoquer l'échange pédagogique le plus vite possible. En l'occurrence, alors, on avait démarré avec une chanson de NTM, Paroles de soufre. C'était mon collègue de vente qui avait déniché ça. Hein. Et il avait raison, en fait. C'était une chanson qui traitait de la misère. Hein. D'ailleurs, assez bien écrite. J'ai été agréablement surpris. J'avais déniché à la médiathèque du Blanc-Mesnil. On ne saurait trop recommander une fréquentation des médiathèques à côté de chez nous. J'avais déniché un documentaire intitulé « La tribu du tunnel » au sujet de sans-abri qui se réfugiaient dans un tunnel. Voilà, donc on a pu démarrer avec les élèves par leur réaction. Ça a permis de les sensibiliser tout de suite et puis de déboucher donc sur cette proposition de faire un travail ensemble pour aider une association. Juste une petite anecdote par rapport à ce projet, pour vous dire que là encore, il se passe des choses quand on met un peu les élèves en responsabilité. Un certain nombre d'élèves qui ont donné ne nous ont pas surpris. On savait déjà que ces élèves allaient apporter des denrées. Mais je me souviens notamment d'un élève avec lequel j'avais vraiment des difficultés en histoire, en français, parce qu'il avait un tempérament très dur. Et d'ailleurs, il était en grosse difficulté sociale. Et un matin, voilà, enfin, moi, ça m'a fait plaisir. Et en même temps, c'était fait avec sobriété, c'est-à-dire il est venu, il a posé deux boîtes de conserve sur le bureau, il est parti s'asseoir sobrement. Enfin voilà, on avait eu cette surprise, et encore une fois, il se passe parfois des choses qui nous surprennent favorablement. Alors un autre exemple avec un enseignant de vente, là c'était une enseignante de vente, un journal du lycée que nous avions fait. En laissant le choix aux élèves des articles. Hein. Et évidemment, en français, il était beaucoup plus simple de travailler à une amélioration de leur texte, puisque l'élève qui était passionné de Zinedine Zidane avait pu faire un article sur Zinedine Zidane, un autre élève qui était passionné de manga avait pu faire un article sur les mangas. Et en plus, on s'assurait d'encourager les élèves à lire, puisque évidemment, les sujets ayant été choisis par des élèves, les élèves du lycée avaient davantage envie de lire des articles qui portaient sur ces sujets. Alors maintenant, un projet que nous avions fait avec une collègue de sanitaire et sociale, de biologie, et puis surtout en partenariat avec l'infirmière du lycée, c'était un projet de prévention contre le sida en travail, en partenariat avec une classe du Burkina Faso. C'était un lycée donc de Ouagadougou. Donc c'est les deux dernières années hein, que le lycée Zinda Kabore de Ouagadougou. Voilà, donc le but c'était d'échanger pendant un an avec, donc, entre notre classe de sanitaire et sociale et une classe du lycée donc, de Zinda Kabore à Ouagadougou autour d'un outil de prévention à destination des jeunes contre le sida. Voilà, donc nous sommes allés à Ouagadougou donc dans un voyage où le but c'était de lancer véritablement le projet. Donc voilà, les jeunes ont travaillé sur la question du sida ensemble. Et puis donc pendant un an, ils ont travaillé à la construction de l'outil de prévention, chacun de leur côté. Donc nous avons travaillé à un sketch, et puis les élèves au Burkina Faso ont travaillé à un sketch également. Nous échangeions par mail, par visioconférence aussi, sur là où nous en étions aussi de notre découverte du sida. Et puis, nous avons donc reçu les élèves du Burkina Faso l'année dernière, c'était en avril 2009. Nous avons fait une semaine de lutte contre le sida au lycée Jean Moulin, durant laquelle nous avons par exemple reçu un spécialiste de l'IRD pour savoir où en est la lutte contre le sida aujourd'hui. Et puis, lors d'une soirée devant public, les élèves ont présenté donc le sketch de nos élèves de sanitaire et social, le sketch donc des élèves du Burkina Faso. Voilà. Et puis la soirée a évidemment été assez festive. Là aussi, effet favorable du projet, non seulement les connaissances sur le sida sont mieux passées qu'elles ne seraient passées évidemment dans un cours plus classique, mais l'ambiance de la classe, qui a pu être mauvaise à certains moments, s'améliorait nettement à chaque fois qu'on accélérait le travail sur le projet. Je me souviens d'une élève qui m'avait dit « Monsieur, la classe, elle est soudée quand on travaille sur le projet Burkina. » Ben, en fait, c'est vrai qu'il se sentait porté par un objectif commun. Un dernier exemple de projet que j'ai pu faire et qui me semble intéressant, parce que cette fois, c'était un projet où au départ on se disait, c'était dans le cadre des projets pluridisciplinaires où on nous demande de travailler en projet, et nous avions à faire un projet entre un professeur de comptabilité, de mathématiques, donc professeur de français, et professeur d'anglais. Donc aller trouver un projet qui permette de réunir toutes ces disciplines. Et en fait, on s'en est sorti en organisant un jeu type le maillon faible, un jeu de questions, qui portait sur des questions par rapport au programme dans les différentes disciplines. Et les élèves devaient ramener leur classeur, leur cahier des différentes disciplines pour chercher des questions. Donc naturellement, sur les fiches, il fallait mettre les réponses aussi. Donc ils travaillaient leur cours, ils révisaient par l'intermédiaire de ce jeu. Un élève a lancé l'idée que nous avions trouvée bonne, donc on avait accepté qu'un certain nombre de questions soient des blagues. Cet élève avait proposé, donc même le nom, il disait c'était question blagounette. Donc il y avait une question sur 4, une question sur 5 qui était une blagounette. Voilà ce qui permettait aussi de rendre ce projet un peu plus ludique. Voilà, et on avait été content aussi de la réception du jeu lors de la journée porte ouverte du lycée, puisque les pauvres élèves qui ont fait les animateurs ont vraiment dû tourner tout au long de la journée. Il y a eu beaucoup de demandes. Bon, j'en viens à la partie organisation, l'organisation du projet pluridisciplinaire. Tout d'abord, pour ce qui concerne le travail entre enseignants, il y a un frein par rapport au projet pluridisciplinaire qui est que nous connaissons mal mutuellement le programme de nos disciplines. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, je propose qu'en début d'année, les coordonnateurs de chaque discipline mettent une feuille format A4, simplement, pour présenter les grands traits des programmes dans chacun dans sa discipline. Surtout pas photocopier les instructions officielles, évidemment, c'est déjà assez imbuvable pour nous, donc pour les collègues qui ne sont pas de la discipline, mais simplement les grands traits du programme pour chaque niveau, de façon à ce qu'on puisse avoir un espace dans la salle des professeurs durant les 2-3 premières semaines de septembre pour se dire « Ah oui, en biologie, ils ont ça au programme, ah oui, en mathématiques, ils ont ça au programme. » Justement, je fais ça en histoire, je fais ça en français, et puis ça peut donner des idées pour travailler ensemble, faciliter les rapprochements pédagogiques. Ensuite, bon, simplement pour aller vite sur le travail entre professeurs, je dirais le principal gage de réussite d'un projet pluridisciplinaire, c'est la fréquence et la qualité des réunions entre enseignants. Donc la fréquence, je dirais, c'est au minimum toutes les 3-4 semaines, pour pouvoir recadrer le projet, savoir bien où on va. Et la qualité, c'est s'en tenir à des procédures d'organisation de la réunion pour être le plus efficace possible. J'en viens au travail avec les élèves, avec la question, est-ce qu'il faut ou non laisser aux élèves le choix du projet pluridisciplinaire ? Avec l'expérience qui m'apparaît, c'est qu'il est préférable d'avoir prévu un projet au départ et puis d'être ouvert si les élèves sentent le projet ou pas, si les élèves ont une autre idée en tête. Et je me souviens d'une professeure de secrétariat qui m'avait donné une leçon en la matière puisque nous étions partis sur un projet annuaire des anciens élèves avec une terminale bac secrétariat. Et les élèves, vraiment, n'avaient pas du tout envie de faire le projet que nous avions prévu et avaient envie d'un projet autour de la ville de Londres. Moi, j'étais plutôt pour nous en tenir à ce que nous avions prévu au départ. En plus, un projet autour de la ville de Londres, c'était bien beau, mais c'est les objectifs pédagogiques qui doivent primer. Et puis, c'est très lourd à organiser. Bon, et ma collègue de secrétariat m'a poussé à davantage de souplesse. Et on a laissé sa chance à la classe, sachant que ce qui me semble positif à chaque fois qu'on part sur un projet, c'est de passer par un vote, faire voter les élèves pour s'assurer que la majorité de la classe a avalisé le projet et pouvoir dire ensuite, écoutez, nous nous sommes engagés mutuellement, nous avons respecté une règle démocratique, donc après ça crédibilise aussi le projet qu'il y ait eu un vote à un moment donné pour avaliser. Bon, on avait fait un vote et voilà, c'était vraiment le projet autour de la ville de Londres qui était. Et on a fait quelque chose qui s'est très très bien passé et qui était très utile d'un point de vue pédagogique, puisque on a travaillé en partenariat avec une classe de secrétariat à Londres Donc, en discutant par email sur le secrétariat en France, à Londres, il y avait la professeure d'anglais aussi dans le projet pluridisciplinaire. Donc, ma collègue de secrétariat avait au programme l'organisation d'une manifestation ou d'un voyage. Donc, c'est les élèves qui ont vraiment organisé le déplacement d'un bout à l'autre. Et nous avons travaillé en français Oliver Twist de Dickens et la biographie de Dickens. Donc le livre, hein, Oliver Twist, qui est quand même assez épais et qui est plutôt bien traduit. Donc le travail de français a vraiment été intéressant. Voilà. Et puis nous sommes donc allés à Londres où nous avons pendant une journée échangé dans le lycée anglais sur le secrétariat en France et en Angleterre et sur Oliver Twist de Dickens. Nous avons visité le musée Dickens. Enfin voilà, le projet s'était bien passé alors que au départ voilà c'était une idée des élèves. Important de faire réfléchir les élèves rapidement par petits groupes hein, sur l'organisation avec un système de porte-parole et puis des questions très précises pour que les élèves soient véritablement cadrés dans les activités. Et puis, important toujours d'en revenir à l'activité pour relancer l'intérêt des élèves. Je me souviens d'un passage de flottement durant le projet Burkina, où les élèves paraissaient un petit peu moins motivés. Et c'est le directeur du service jeunesse de la ville du Blanc-Mesnil avec lequel nous travaillons qui m'avait soufflé vraiment l'idée. Même si les élèves avaient déjà étudié les questions du sida, du Burkina, etc., il a proposé qu'ils aillent plus loin à travers des exposés. On les a fait travailler à des exposés par binôme sur le pays, le Burkina Faso, sur le sida, l'état de la recherche, sur le sida en France, le sida en Afrique. Et dans le cadre de ces échanges d'exposés qui étaient faits par des élèves, eh bien, la dynamique du projet a été véritablement relancée. J'insiste sur l'importance des partenariats et sur l'utilité qu'il y a à se poser vraiment la question au début d'un projet sur qui peut être partenaire par rapport à ce projet. Et je me souviens par exemple pour le projet Burkina que nous avions contacté trop tardivement la collègue d'art appliqué par rapport au décor pour le sketch et elle m'avait envoyé bouler et elle avait raison. Hein. Donc c'est important en début d'année de faire une réunion avec toute l'équipe pédagogique pour voir qui peut être concerné par le projet et qui a envie d'y travailler. Important de penser aussi aux personnels qui ne sont pas enseignants. Hein, et je me souviens aussi d'un projet qui s'intitulait « Parlez-moi d'amour », fait avec la Fondation 93, qui propose des projets vraiment, vraiment intéressants et en partie clés en main. Et en fait, je m'étais lancé dans ce projet avec la collègue de biologie et l'infirmière du lycée avait été fâchée et elle avait raison que je ne l'ai pas contactée alors que le projet la concernait éminemment. Juste deux points sur les pièges à éviter en matière de projet. Le premier piège à éviter, c'est le projet pluridisciplinaire obligatoire. Et à mon avis, ça a été une erreur des PPCP en lycée professionnel, c'est qu'on s'est retrouvé dans un certain nombre de cas avec l'obligation de faire un projet. Et ça, il me semble que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fonction de l'alchimie entre nous enseignants, en fonction de l'alchimie avec la classe, il y a possibilité ou non de faire un projet pluridisciplinaire. Mais que ce soit obligatoire, systématique, à mon avis, ça a été une erreur et ça a porté préjudice. Vraiment, il faut que ça parte d'un désir d'enseignant et il faut que l'alchimie fonctionne entre nous et fonctionne avec les élèves. On dit parfois aussi qu'avec les classes les plus difficiles, ça serait la recette miracle, le projet à la Freinet. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants de l'époque de Freinet. Je me souviens par exemple d'un projet avec une terminale bac comptabilité de comparaison entre le système juridique anglais et français. C'était les élèves qui avaient voulu travailler autour de l'Angleterre, mais ils avaient là vraiment l'objectif de partir en Angleterre. Ils n'avaient pas l'objectif d'un projet vraiment pédagogique et on s'était vautré. Donc vraiment, il n'y a pas de miracle et c'est pas forcément avec les classes les plus difficiles que le projet pluridisciplinaire va bien fonctionner. Au sens où parfois les classes les plus difficiles ont besoin de cours relativement classiques parce qu'ils ont tellement besoin de cadres qu'il faut faire attention à cela. Voilà. Très rapidement, ma dernière partie, parce que je ne voudrais pas déborder. Donc, sur la question de l'évaluation et de la présentation finale du projet. Pour l'évaluation, une question qui se pose à chaque fois, c'est faut-il évaluer un projet pluridisciplinaire ? Alors, l'idéal voudrait bien sûr que, dans le cadre d'un projet où on cherche à ouvrir les élèves vers autre chose, on puisse ne pas évaluer. Il me semble que l'humain étant l'humain, en tout cas avec des classes de difficultés moyennes, peut-être qu'avec des classes excellentes, ça ne se poserait pas comme problème, il est préférable d'évaluer, et même d'évaluer très régulièrement les élèves, de mettre des notes très régulières. Déjà, ça crédibilise le projet. Ça permet de montrer aux élèves que vraiment à travers le projet pluridisciplinaire, l'objectif c'est de transmettre des connaissances dans les différentes disciplines. L'objectif ça n'est pas de jouer pour jouer dans un projet pluridisciplinaire, et le fait de noter ça permet de le rappeler. Alors, des notes au fur et à mesure sur des travaux précis, de groupes individuels, et puis ce qui est positif aussi, c'est une note à la fin du projet, avec en ayant prévu un barème. Alors par exemple celui-ci que j'ai pu utiliser pour l'investissement personnel dans le projet 8 points, pour le travail de groupe 5 points, la prise d'initiative 5 points, la qualité de la documentation réunie 2 points. Et puis je mets un bonus pour l'influence positive dans la classe de plus 1 point ou plus 2 points. Il est aussi utile d'avoir une évaluation orale à la fin du projet où chaque élève vient dire sa participation au projet. Elle peut être faite devant tous les enseignants qui ont participé au projet. Ça permet aussi de réunir l'équipe à la fin du projet. Une bonne chose aussi, c'est de faire participer les élèves à cette évaluation. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils sont assez lucides sur les notes à mettre sur leurs camarades. Et puis, bien sûr, pour pouvoir s'améliorer, demander aux élèves d'évaluer eux aussi le projet. Les questions que j'ai l'habitude de poser aux élèves à la fin d'un projet. Le projet vous a-t-il aidé à acquérir de nouvelles connaissances ? Le projet vous a-t-il aidé à grandir ? Alors je leur explique que ça signifie être moins timide, faire davantage attention à l'autre, s'ouvrir aux autres, devenir davantage adulte. Le projet a-t-il eu un rôle positif sur l'ambiance de la classe ? Et puis, si le projet était à refaire, que pourrait-on améliorer ? Juste un point sur la présentation du final du projet. Je pense qu'il faut que nous essayions d'éviter les expositions classiques avec les textes écrits de façon manuscrite, parce qu'on l'a tellement fait qu'aujourd'hui, ça attire trop peu l'attention. Et c'est assez simple de mettre une vidéo en boucle, par exemple, avec un vidéoprojecteur. Ou même, il existe des moyens, si on n'a pas la chance d'avoir un vidéoprojecteur. Avec une collègue de secrétariat, j'avais découvert le système des affiches dépliantes. Au fur et à mesure où un élève explique quelque chose sur le projet qui a été réalisé, donc devant les parents, devant les gens qui sont venus à la journée porte ouverte, il déplie des affiches où sont inscrites les réponses aux questions qu'il a posées. C'est un peu le PowerPoint du pauvre, mais ça marche assez bien. Ça marque l'attention. Autre possibilité aussi, faire une présentation du projet dans une salle informatique où les élèves vont pouvoir présenter sur les différents ordinateurs le projet. Voilà. En conclusion, je voulais simplement dire qu'il est parfois utile aussi de faire des projets où on sort du disciplinaire. Et l'année dernière, avec une classe et avec la professeure de biologie, nous avons fait une sortie dans un restaurant qui s'appelle, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le Restaurant dans le Noir dans Paris, c'est à côté de Beaubourg. Donc c'est un restaurant dans l'obscurité complète où on est servi par des serveurs qui sont non-voyants ça donne lieu ensuite à une discussion entre les élèves et le serveur non-voyant sur la vie d'un non-voyant. Et j'ai été surpris de découvrir que les élèves qui avait un peu du mal, en fait, pour ce qui était de la prise de parole, parfois anarchique, en cours, alors que là, on se voit, on peut lever la main, etc. Là, on était dans l'obscurité complète. Eh bien, les élèves ont respecté la prise de parole, alors qu'on était dans l'obscurité complète, et on a senti qu'il y avait eu une prise de conscience intéressante. Donc, voilà, je pense que sont aussi à promouvoir des projets qui... simplement, entre guillemets, déjà, ouvre à la citoyenneté. Voilà, je vous remercie.
Merci en tout cas. Les intervenants ont été très brefs, et je les en remercie. Donc vous avez un quart d'heure, 20 minutes maxi, monsieur Chevalier. En tout cas, merci, parce que c'est pas évident de se mouiller, de se partager sa pratique devant des collègues. Donc merci de l'avoir fait. Et monsieur Chevalier va s'y essayer aussi, mais c'est un peu plus facile parce qu'il les connaît, ses collègues. Donc, il y a les petites affiches de soutien.
Bien alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de revenir parmi vous et d'échanger avec vous. Donc ma participation aujourd'hui, c'est juste en guise de témoignage, puisque cette année j'enseigne au lycée franco-allemand de Fribourg, dans le sud de l'Allemagne. Donc un lycée où on retrouve des collègues allemands, des collègues français, des élèves binationaux, etc. Alors, moi, donc je vais vous parler de deux choses. Si aujourd'hui, donc là je suis à Fribourg... Une des spécificités de Fribourg, c'est un peu une vitrine pour le développement durable. Et ça va être un petit peu mon biais aujourd'hui pour, si le thème d'aujourd'hui c'est l'interdisciplinarité, bon ben le développement durable, c'est un thème dans lequel on se retrouve beaucoup avec mes collègues sur différents projets. Juste, peut-être encore pour expliquer le contexte, donc Fribourg c'est... Donc Fribourg, le contexte, Fribourg c'est dans le sud de l'Allemagne, c'est une ville dans laquelle il y a un vieux militantisme écologique depuis bien longtemps, etc. Et donc une conscience écologique qu'on retrouve chez les différentes personnes de la région et donc bien entendu chez les élèves et chez les collègues. Et donc, ça se retrouve dans les projets interdisciplinaires du lycée. Donc, moi, je vais vous parler de quelques projets de développement durable qu'on retrouve dans ce lycée franco-allemand, et puis également, peut-être dévier un petit peu, et puis parler de quelques points de fonctionnement qu'on retrouve dans le système allemand. Même si j'aurais pas mal d'anecdotes à vous raconter, etc. Mais c'est, je trouve ça assez intéressant. Donc, moi, je vais vous raconter cela. Je suis pas spécialiste du tout. J'y suis depuis le mois de septembre. J'ai pas un poste complet non plus, mais enfin bon, je pourrais vous raconter deux trois petites choses. Par rapport aux différents projets qu'on retrouve dans ce lycée-là, il y a une approche effectivement interdisciplinaire, et puis on retrouve également dans le lycée franco-allemand et puis dans les différents lycées allemands beaucoup d'ateliers, de clubs, voilà, on va retrouver beaucoup tous les midis d'aguets, ce qu'on appelle des clubs sur la musique, la chorale, où tous les enseignants sont invités à participer, à créer des projets. Moi, par exemple, je suis le jeudi midi, je suis dans la chorale où je suis avec les élèves, le directeur, la secrétaire, etc. Bon, ça, c'est un type d'échange, je trouve, assez sympathique. Et puis, il y a également un autre club axé sur donc développement durable et donc sur la mise en place d'énergie renouvelable. Il y a un petit côté sympa, je trouve, dans cette approche interdisciplinaire, c'est qu'on a souvent un aspect pratique des choses, c'est-à-dire qu'on va avoir... Cette approche, on va retrouver donc ce qu'on peut faire nous habituellement en tant qu'interdisciplinarité, mais également on va essayer d'avoir une démarche pratique. Et par exemple, il y a une AG, un club sur la mise en, ils ont mis en place des panneaux solaires. Et donc ils se sont, au début, il y a eu un prof de maths, un prof de physique, un prof d'éco pour lancer la mise en place de panneaux solaires sur le toit du lycée avec différents élèves, pas des élèves d'une classe, mais des élèves intéressés par le projet pour monter cela. Donc ça fait appel à des investissements assez importants de différentes questions physiques, environnementales, et ils ont créé une association. Une association donc pour gérer tout cela. Et ça date depuis 2-3 ans, et chaque année comme ça ils ont installé des panneaux et des panneaux solaires sur le toit du lycée. Moi cette année je les ai rejoints pour installer d'autres panneaux solaires, donc on se retrouvait pendant les vacances, pendant les samedis, etc. sur le toit du lycée. Donc ça donne une ambiance assez sympathique entre les élèves et les profs. D'ailleurs, ça donnait tellement une bonne ambiance que entre les profs des années passées et les élèves, moi, je suis arrivé sur le projet et il y avait une telle cohésion entre les élèves et les profs que c'est même difficile après d'arriver dans le projet, tellement ça a noué une certaine amitié presque entre les élèves et les profs. Donc, et puis c'est assez sympa cette approche pratique où on se retrouve avec les élèves, pour manier le tournevis sur le toit. Donc c'est un exemple comme ça d'approche qu'on peut qualifier d'interdisciplinaire. Avec, je pourrais vous citer d'autres exemples, mais je pense que le développement durable, c'est un bon exemple, je trouve, d'approche interdisciplinaire, dans le sens où ça fait appel à tout un tas de questions. Moi, j'ai pu le vivre, j'ai fait un stage sur le développement durable avec différents collègues, et quand on est amené à se poser des questions, ben forcément, on arrive très vite à des questions essentielles du style, en fait, au final, dans quel monde avons-nous envie de vivre? Et si on peut partager ça avec les élèves, si on peut partager ça avec les collègues, je trouve ça, mine de rien, assez... toujours très intéressant, et tout de suite l'implication de tous est beaucoup plus concrète. D'ailleurs, ça c'est une autre approche. J'ai une intervention peut-être un petit peu décousue, etc. Mais si c'est juste pour vous dire que le développement durable, c'est une activité interdisciplinaire qui me semble assez intéressante. Si vous avez, vous, également l'envie de développer ce genre de thématique, je sais déjà que la mairie de Romainville est également aussi lancée sur ce sujet-là, mais si vous avez envie de lancer des ponts entre le lycée Liberté et le lycée franco-allemand de Fribourg, c'est tout à fait possible. Chaque année, le lycée franco-allemand reçoit comme ça différents lycées français pour voir, d'un point de vue environnemental, comment ça se passe au lycée, comment ça se passe à Fribourg, les éco-quartiers, etc. Comment on arrive à la question du vivre ensemble à Fribourg, comment est-ce que ça se passe, ou dans un lycée également. Et puis, bien entendu, c'est toujours assez intéressant, je trouve, de voir un autre fonctionnement entre un lycée français et un lycée allemand. Il y a tout un tas de différences. Donc, si vous avez envie de lancer des ponts, des passerelles, c'est tout à fait possible. Et donc, je suis preneur si vous voulez vous lancer dans ce genre de thématique. Donc, c'est au moins si aujourd'hui on pourrait échanger, mais c'est une véritable invitation. Je pourrais vous parler de tout un tas d'anecdotes aussi entre le fonctionnement d'un lycée français et d'un lycée allemand. Par exemple, moi, ce qui me plaît effectivement dans cette nouvelle approche, c'est qu'on va avoir souvent une approche concrète, donc dans différentes activités interdisciplinaires, avec toujours un projet à la clé. à la fin de l'année, aussi un autre exemple, on a les Project Hagen, les 3 jours où, sur lesquels on va, donc le lycée va se retrouver, on arrête un peu les cours au mois de juin et on se retrouve sur un thème. Le thème de cette année, c'est un thème assez général, c'est un monde, et où différents profs vont lancer des idées de projets concrets. Donc nous, avec des collègues, on s'est intéressé à la thématique de l'eau. Et donc moi, je retrouve une collègue de géo pour les questions géopolitiques sur l'eau, une collègue de biologie pour les aspects contamination, moi en physique sur les aspects épuration de l'eau, etc., traitement de l'eau, et puis également un collègue du primaire. Et puis, bon, il y a un petit côté sympa en plus, quand on dit interdisciplinaire, ça veut dire aussi donc rencontre de différents profs. Et le côté sympa également, voilà, moi j'ai appris à rencontrer d'autres personnes, etc. Et puis, André, mon collègue de CE2 du primaire, bon, bah, lui, il voit l'aspect pratique des choses en disant, bon, bah, c'est interdisciplinaire. Quatre personnes, au final, ça va faire 4 repas. Le premier repas chez un tel pour lancer les objectifs. Le deuxième repas, ensuite, on va voir un peu les différents projets concrets qu'on pourrait faire à Fribourg. Bon, c'est aussi ça, je trouve, l'interdisciplinarité. C'est la rencontre entre les disciplines, c'est sympathique. Bien, donc, pas mal d'approches environnementales, en tous les cas, à Fribourg. S'il y a une chose donc qui me plaît par ces différentes approches, c'est le plaisir qu'on retrouve chez les élèves à entrer dans ces démarches interdisciplinaires. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est vrai que c'est toujours assez dommage si on force les personnes à le faire. En revanche, si les élèves sont volontaires pour le faire, ça donne beaucoup plus de plaisir. Et c'est, je trouve, ce côté plaisir qu'on retrouve comme ça chez les élèves à s'investir dans différents projets. C'est je le note comme ça. Je le note comme ça. Je l'ai vu à différentes occasions. Et un autre. Ça va au niveau du temps. Je vais bientôt conclure. Encore un point où. Depuis le début de l'année, j'ai dû apprendre également les différents types de fonctionnement au lycée. Bon, il y a des aspects où on est beaucoup plus libre dans la matière et dans les contenus, etc. Bon, il y a un peu plus de souplesse. Et puis également, j'ai dû apprendre aussi différentes règles où on m'a dit dès le début de l'année où fallait pas déroger à la règle. C'était très très important. Notamment, bon, là je vais dériver un petit peu de l'interdisciplinarité, mais sur le fonctionnement dans les lycées allemands. Par exemple, on m'a dit, bon, dès le début, il faut que, sur la question de comment tu vas organiser tes devoirs et comment tu vas noter, là, il faut être... il y a des règles à respecter. Notamment, par exemple, au début de l'année, on se doit d'annoncer le nombre de devoirs qu'on va faire par trimestre et puis quand on va les faire. Et d'ailleurs, pour l'info, là-bas, le prof qui donne plein de devoirs, c'est pas forcément vu comme un bon prof. Hein. En tous les cas, on se doit d'annoncer le nombre de devoirs. Et alors après, concrètement, donc ça donne ce genre d'organisation. Par exemple, dans la salle des profs, on a un classeur où vous avez les différentes classes. Et il y a une règle, on n'a pas le droit de donner plus de 3 devoirs par semaine. Donc on doit s'inscrire, comme ça, il y a un classeur dans la salle des profs. Où chaque semaine, pour chaque classe, voilà, donc il y a un prof qui s'inscrit là en premier, bon ben moi je me mets le vendredi, il y a la prof d'anglais le mardi, etc. Et puis pas plus d'un devoir par semaine. Bon, ça c'est une règle stricte. Les élèves sont contents, comme ça leur permet d'étaler un petit peu leurs devoirs. Les parents également aussi, parce que comme ça les élèves ont un ordre, et on sait dès le début de l'année quand est-ce que ça va tomber, etc. Au moins pour un trimestre. Et puis même pour moi également, j'y retrouve aussi mon compte, puisque ça me permet d'étaler un peu et puis de prévoir mon travail. Et d'ailleurs, je le constate, j'ai moins de paquets de copies comme ça sur mon bureau à certaines époques. Je trouve ça assez agréable et puis finalement très simple à mettre en place. Il y a le classeur qui est là, on s'inscrit, en septembre on planifie jusqu'à décembre, janvier. Moi comme ça je me dis tiens j'en mets un là, pour les élèves, pour les profs c'est assez agréable. Un dernier point encore, où je dérive de l'interdisciplinarité, mais c'est sur un thème que j'aime bien, c'est sur la notation. Mais là aussi, on m'a dit, c'est la deuxième chose à faire très très attention, on ne peut pas y déroger, c'est la façon dont on a noté. Donc c'est un lycée franco-allemand donc, qui a essayé de faire un mix entre la notation française et la notation allemande. La notation allemande, ça va de 1 à 6, 1 étant la meilleure note. Et là, en fait, ici, au lycée franco-allemand, on va de 1 à 10. Donc, si vous mettez une note sur 20, on met une note de 1 à 10. On a le droit d'aller au demi-point, mais on peut aussi se réserver le droit de mettre juste des notes entières. Et en fait, et moi, je suis ravi aussi avec ce système-là, puisque j'ai toujours eu des difficultés avec la note, cette notion de mesure. Donc, et vous avez pu constater que ici, la moyenne chez nous, c'est on est à 6. Donc, bien entendu, donc ça change les critères, mais en tous les cas, ben, forcément, ça donne des moyennes qui sont plus tout de suite plus vers le haut. Parce que voilà, quand il y a un élève à 45%, donc moi je lui mets automatiquement la note 6. Hein. Donc je peux noter sur 37, 42, je m'en fiche, je regarde le pourcentage et automatiquement ça me donne la note. Et il est assez mal vu, ou même ça viendrait pas à l'esprit de donner des devoirs où on se situerait là. Il y a même un collègue français il y a pas longtemps qui m'a dit il y a, je crois qu'il y a une loi qui dit qu'il est interdit d'avoir de rendre des devoirs avec tant de pourcentage de notes assez basses, etc. Voilà. Donc bon, sinon on refait le devoir, etc. Bon. Mais en tous les cas, je trouve que c'est assez plaisant puisque ça permet de simplifier un petit peu cette notion de notation. Et le système allemand où on va de 1 à 6, bah, c'est encore plus simple. Et puis finalement, quand d'autres pays notent de A, B, C, D, E, F, je pense que c'est une évolution aussi sur laquelle on peut penser. Donc voilà, c'est bon au niveau du temps. Il y a donc plein d'aspects. J'ai peut-être été assez brouillon et peut-être assez imprécis, mais si vous voulez d'autres informations, avec grand plaisir. Voilà.
Bien, donc merci beaucoup à tous les trois. Et donc si on n'était pas dans l'interdisciplinarité, on était vraiment dans la collaboration pédagogique pour le coup sur la répartition des devoirs. Bien, donc on va prendre une petite pause parce que j'ai le sentiment qu'il y en a qui en ont besoin et on en a tous un petit peu besoin. On va donc faire une pause. Vous partez en atelier. Alors les listes d'ateliers sont affichées là. Essayez s'il vous plaît de les respecter. Ça évite qu'on se court après dans les couloirs et en particulier qu'on salisse toutes les salles de l'établissement. J'ai fait quelques tirages là, sinon c'est affiché, donc vous regardez dans quel groupe vous êtes. Il y a un rapporteur qui a été désigné, si vous voulez absolument changer de rapporteur, ça ne me pose pas de problème métaphysique, hein, mais voilà. On se retrouve, donc s'il vous plaît, on essaye pour tenir le planning et pour terminer à midi 00. Il est 25, vous prenez 5-10 minutes de pause. À moins 25, vous êtes dans les salles, on se retrouve ici à moins 5, s'il vous plaît. Chaque groupe formule une question pour les intervenants, et après ça, il y aura question à bâton rompu, enfin, comme vous savez. Merci.
L'expression,
Donc déjà, je tenais à remercier les intervenants pour ces interventions enrichissantes. Et donc la question tournait autour de la transversalité et puis notamment des PPCP. Sachant que la transversalité, et notamment le PPCP, est obligatoire à CFTEX et référentiel, comment arriver à motiver le groupe de manière à avoir une adhésion complète et totale de la classe? Comment arriver à créer une synergie avec l'enseignant partenaire malgré une pédagogie différente et une façon de travailler également différente? Et si l'élève n'adhère pas ou ne participe pas, faut-il le sanctionner? Puisque vous avez donc développé un point qui était l'évaluation avec un barème détaillé. Mais si justement l'élève n'est pas motivé malgré un vote et n'adhère pas du tout au projet, est-ce que, parce que vous avez également dans le barème mis un point qui est la... l'influence positive dans la classe. Mais il y a aussi l'influence négative dans le cadre du PPCB, puisque certains élèves n'adhèrent pas, ils ne veulent pas participer et essayent d'influencer les autres dans le même sens. Est-ce qu'on doit arriver justement à une sanction dans le cadre du PPCP ou, du travail en transversalité? Je vous remercie.
On prend une autre. On prend d'autres questions, vous voulez répondre?
Comme vous voulez.
Peut-être on prend une autre. On va prendre tout. On va prendre des questions.
On prend des questions. Ouais. Allons-y. Madame Valentin, par exemple. Madame Valentin, vous voulez rapporter pour votre groupe une question? Quelqu'un de votre groupe?
C'est mieux de prendre toutes les questions, je trouve. Oui. Hein.
Alors, pour nous, ça a été un peu difficile de trouver une question parce que... Donc, ce qui est ressorti un petit peu de ce dont on discutait, c'est essentiellement dans le cadre des PPCP, que vont devenir les savoirs théoriques disciplinaires propres à la matière? C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont trouver leur place? Où est-ce que vont trouver leur place les connaissances à acquérir par les élèves? Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on a réellement les moyens de mettre en place un projet, c'est-à-dire en termes d'heures, de moyens financiers, de moyens... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réaliser un PPCP en une heure? Est-ce que c'est possible en un quart d'heure? Est-ce que réellement les moyens sont mis en place pour la réalisation du projet et son aboutissement concret et, voilà.
Une autre question?
Ensuite, madame, Nino, vous voyez? Pour quel groupe, je ne sais pas.
Oui, alors, plusieurs questions là, concernant ce groupe. Alors, une première question, ça a été sur les élèves, parce que je crois qu'à un moment, M. Chevalier a parlé des... M. Clerc, des élèves, et une des questions qui s'est posée, M. Chevalier a parlé du désir des élèves, et est-ce que là, on parlait plutôt d'un groupe classe, ou alors d'un groupe d'élèves d'un établissement? Ça, on voulait un petit peu que vous fassiez une distinction là-dessus. Une deuxième question, c'est effectivement l'adhésion d'un projet. C'est quelquefois un peu compliqué de pouvoir faire adhérer des élèves à un même projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements là-dessus? Et puis, une dernière question. Est-ce qu'on peut faire l'économie des programmes? C'est-à-dire que on a eu l'impression que... En fait, c'était assez marrant, parce que dans cette discussion, on a eu un peu le contrepoint de l'organisation des projets. C'est-à-dire qu'on a eu toute une première partie ici, où on nous a dit, oui, les projets, c'est formidable, les projets, l'adhésion. Et puis, là-haut, dans la salle, on a eu des anciens qui ont dit, oui, mais les projets, faites attention, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire que, pourquoi pas, mais il y a des précautions à prendre, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, ils nous ont dit qu'effectivement, c'était pas toujours... Voilà, c'était un petit peu plus complexe que ça en avait l'air. Et voilà, et notamment l'adhésion des élèves, une des questions, et aussi l'économie des programmes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment se dépatouiller de ça, du programme, du projet, le temps que ça prend, que ça va prendre, et des comptes qu'on doit rendre avec le programme. Voilà.
On répond à celle-ci, puis on reprendra les autres après. Qui veut répondre?
Moi, je dirais des choses vers la fin.
Alors, je vous remercie pour ces questions. D'abord, celle de la motivation des élèves. Alors, ça dépend en partie du choix du projet, hein, c'est-à-dire que évidemment, il ne faut pas se lancer dès qu'on a une idée de projet, mais sur Internet, aujourd'hui, on trouve On trouve des idées de projets à l'appel, donc il faut avoir longuement cherché sur Internet des idées de projets avec les matières pour essayer d'en trouver une qui est susceptible de mieux capter l'attention des élèves. Je pense cette année, alors que nous allions partir dans un projet avec une collègue de secrétariat, sur une présentation de la filière secrétariat, du secrétariat devant les collèges. Les élèves, visiblement, n'étaient pas motivés par cette idée. Donc c'est la question du choix du projet. Là, finalement, nous sommes partis sur un projet intitulé « La bonne secrétaire et la mauvaise secrétaire ». Donc en français, on monte une petite pièce de théâtre avec la bonne secrétaire. Et naturellement, la pièce de théâtre la plus drôle, c'est celle sur la mauvaise secrétaire. Qui permettra de faire une présentation aussi de ce qui est attendu dans le métier de secrétaire. Et évidemment, ça ne concerne pas que le métier de secrétaire. Ce que nous transmettons aussi, c'est une rigueur. Hein, ça n'est pas seulement des savoirs et des savoir-faire sur une discipline proprement dite. Voilà. Maintenant, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'avec certains groupes, hein, et je pense à votre intervention, où je suis tout à fait d'accord avec le mot que vous utilisez, des précautions à prendre. Simplement, c'est même plus que ça. C'est aussi qu'avec certains groupes, je pense qu'il faut aussi savoir renoncer à faire un projet pluridisciplinaire. Il y a des groupes d'élèves où l'alchimie ne fonctionne pas. Et si on se lance par expérience, je sais qu'on risque de galérer toute l'année à chercher à remotiver les élèves. Et je l'ai dit, hein, je le pense vraiment, je suis contre l'obligation en matière de projet. Je suis pour que nous essayions en début d'année, en essayant de trouver les projets les plus porteurs auprès des élèves. Mais je suis contre l'obligation. Et encore une fois, il m'est arrivé vraiment d'avoir de grosses difficultés parce que nous étions obligés de faire un projet pluridisciplinaire avec une classe. Il faut que ça naisse d'une envie entre enseignants, d'une envie avec les élèves également, et ça dépend du type de classe. Je termine simplement, hein, et j'écoute votre question. J'insiste sur le fait que l'utilisation des notes, me semble-t-il, avec les classes un peu remuantes, est un moteur, et des notes qui gagnent à être plutôt meilleures que les notes dans les disciplines. Moi, j'ai l'habitude de leur dire que les notes que je vais mettre en projet vont compter dans ma moyenne en français. Donc, ils savent que ça peut remonter la moyenne de français, et il est un peu plus facile d'avoir une bonne note en projet que de l'avoir en français. Enfin, j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a quelque chose de différent quand même dans le projet. Au niveau même de l'attitude des élèves, je n'ai pas la même attente. C'est-à-dire que, par exemple, je tolère le chewing-gum dans mes cours de projet, que je ne tolère pas en français, en histoire. Je veux aussi leur faire comprendre que voilà, ce sont des heures qui sont un peu différentes. Mais pour ce qui est de la question sur la discipline, je gère la discipline. Alors bon, je ne peux pas rentrer dans le détail sur ma façon de gérer la discipline ici, mais je gère la discipline dans les cours de projet de la même façon que je la gère dans mes cours de français histoire. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut avoir, de l'exigence, hein, si on veut justement que le projet parte sur de bons rails. Un dernier point sur la question des moyens. J'ai eu l'impression jusqu'ici, enfin quand j'ai débuté, je pestais souvent par rapport à la question des moyens. Et puis c'est une chef de travaux dans mon lycée qui, d'une certaine façon, m'a un petit peu montré l'autre version, c'est-à-dire que nous n'arrêtions pas de nous plaindre dans notre lycée des ordinateurs qui ne fonctionnaient pas, qui étaient des dinosaures, etc. Elle, quand elle est arrivée en poste, elle a dressé un inventaire complet des ordinateurs et elle a fait une commande très précise à la région. Nous avons obtenu les ordinateurs en un mois et demi. Hein. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça. Et depuis, c'est vrai que j'ai pris des réflexes un petit peu différents, c'est-à-dire qu'au lieu de pester, par exemple, parce que nous manquons de cartes en géographie, eh bien, je vais dans les catalogues chercher les références précises, je fais la demande à notre intendant, Je harcèle l'intendant, le chef d'établissement pour avoir pour que les dépenses soient faites. Et c'est un peu la même chose pour ce qui est des projets. Je me suis aperçu que quand on fait une proposition en respectant les délais de projets et qu'on demande une subvention, en respectant les délais, en remplissant très rigoureusement les documents, en respectant aussi qui est susceptible de financer quoi. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner. Hein. Qu'est-ce que c'est un projet passion dans la région Île-de-France? Qu'est-ce que c'est un projet élève dans la région Île-de-France? Quels sont les délais? On reçoit souvent les subventions. Donc je mettrai une nuance quand même sur l'idée du manque de moyens. C'est parfois aussi une question de faire les demandes en temps et en heure et pas des demandes braillées à la récréation ou dans un couloir, des demandes donc par écrit dans les délais, etc. Voilà. Juste un tout dernier point, excusez-moi, et puis on va reprendre pour les questions. Pour un certain nombre de projets, il est préférable que ce soit monté avec des classes. Il y a un certain nombre de projets aussi qui peuvent être montés avec des groupes plus libres. J'ai construit dans mon lycée un petit club d'échecs parce que je suis intéressé par ce jeu, même si je suis très mauvais joueur. Et là, naturellement, ce sont des élèves qui viennent de classes très, très, très différentes, hein, avec lesquelles je peux jouer lors de une ou deux récréations par semaine. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à préciser ou on repart pour des questions ?
J'en ai plein à préciser, mais je ne suis pas...
Après.
Il y a des questions ?
Non, oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va prendre des questions. Oui. Oui, là, ça a été ouvert. Hein.
Juste dire un mot sur les PPCP.
C'est quoi, d'abord ?
Obligatoire. Les PPCP, c'est les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel.
D'accord.
Hein. Comme vous le savez... Dans la réforme du bac pro, il n'y a plus de PPCP. Donc le législateur, dans sa grande sagesse, vous a entendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien. On est toujours dans une dynamique de projet. C'est-à-dire que le projet est à l'honneur. L'idée, c'est d'avoir des projets, mais il n'y a plus de caractère obligatoire avec une heure de ci, une heure de ça, etc. Donc de fait, par rapport aux questions sur le caractère obligatoire du PPCP, la réforme du bac pro 3 ans va dans ce sens-là.
C'est une très bonne
chose. Plus de liberté, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on a. Ça ne veut pas dire non au projet. Ça veut dire. Oui, on est sur de la pédagogie de projet, mais c'est plus obligatoire une heure de ci, une heure de ça. Voilà, je vous laisse la parole. Et puis on va quand même.
Moi, c'est simplement une question que j'avais à poser. C'est est-ce qu'il y a une académie, n'importe laquelle, ou un ministère, en l'occurrence de l'Éducation nationale, qui a fait une évaluation de ce que. Rapporter le projet de manière globale et non pas des perceptions individuelles comme vous nous l'avez, depuis ce matin, chacun, je veux dire, il y a eu deux interventions, celle de Guillaume qui était extrêmement intéressante, la vôtre super intéressante, mais ça reste quand même des perceptions individuelles de ça marche, ça marche pas. Maintenant, est-ce que, à un moment donné, on a fait une évaluation sur un nombre global d'élèves, qu'est-ce qu'ils gagnent à faire des projets? Parce que beaucoup d'enseignants disent, au bout d'un moment, même c'est pour ça qu'on a abandonné légèrement les PPCP, c'est qu'on se rend compte que, par rapport à la question qu'avait posée Mélanie, où en sont finalement les savoirs conceptuels. Voilà. Je vous laisse.
Excusez-moi, juste une question. Il est tradition dans ce lycée de préparer vers la fin de l'année le projet de PPCP pour l'année d'après. Selon vous, c'est une mauvaise idée, non? Si j'ai bien compris. Est-ce qu'en fait, il faut discuter avec les élèves pour justement mettre un projet en commun et justement les faire qu'ils soient motivés, quoi. Donc si on le prépare à l'avance, l'effet de débat n'a plus lieu d'avoir. Monsieur Pestel.
Tout à fait. Est-ce qu'on prend les autres questions des groupes, peut-être,
oui.
On va fouler. Hein, les groupes qui n'ont pas posé leurs questions, donc il y a le groupe de Madame Aymon. Ah, vous, M. Ayello. Monsieur Ayello. On va y répondre. Hein. Monsieur Ayello.
Donc nous, on a beaucoup parlé de l'organisation des PPCP et surtout la gestion du temps. Et donc on se posait la question, c'était comment organiser son temps entre un projet chronophage et un programme dense. Parce qu'on se rendait compte que par moment on avait besoin d'une heure par semaine, mais il y a des moments où on va avoir besoin d'un peu plus. Voilà, donc c'était... Nous on s'est beaucoup interrogé sur le temps. En fait.
D'accord. Madame Lim, ou quelqu'un d'autre vous, Madame Le Maire. Question ici.
Pour nous, c'était dans l'interdisciplinarité, en tant que projet. Donc, jusqu'à présent, tout ce qu'on a entendu, c'était l'élément fédérateur se trouvait à l'extérieur du lycée, les réseaux d'initiative par rapport au réseau du cœur, le voyage à Londres, etc. Donc, c'était donc à l'extérieur. On s'est posé la question, ne peut-on pas faire l'inverse ? C'est-à-dire prendre l'élève comme base, comme élément fédérateur pour un travail interdisciplinaire, un projet interdisciplinaire. Ceci aurait pour objectif de fédérer les élèves d'une classe pour dépasser les clans, les différences entre eux, les différents comportements, le langage, etc., par une action qui ne peut que les toucher. C'est faire ses devoirs et apprendre ses leçons au lycée pour ne plus rien à faire à chez soi, et au moins que ce soit fait, les élèves utilisant, exploitant la pluridisciplinarité des professeurs en autonomie. Ça relate... ça relate, c'est parti de la base d'une réalité qui a été faite et qui s'est fabuleusement bien passée.
Bon. Bon courage pour la réponse. Oui, moi j'ai la réponse. Le vote de Madame Aymon.
Bonjour. Alors, notre groupe, je vous pose la question telle qu'elle a été posée. Alors, comment au niveau pratique peut-on associer des élèves ne souhaitant pas adhérer au projet ? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous auriez des pistes pour nous aider ? Voilà. Parce que c'est souvent le cas, en fait.
La question, quelle
première question ?
Oui, sur les programmes. Bon, moi, je veux bien... Oui.
Bon, moi, je vais faire une réponse qui sera à aucune des questions précisément, mais sur des choses qui ont été abordées dans plusieurs. Notamment, peut-on faire l'économie des programmes ? Qu'est-ce qui se recentrait sur la classe ? Alors, moi, il me semble, et c'est aussi une réaction à ce qui a été dit par Sébastien Clerc, tout à l'heure, il me semble qu'il faut distinguer entre les types de projets. Et, parce que visiblement, il y a des projets qui sont des projets de motivation destinés à fédérer aussi bien l'équipe d'ailleurs, aussi bien les élèves d'une classe qu'un groupe, que les professeurs, avec des risques. Hein, je veux dire, tous ces projets ont des risques. On tombe un peu dans le ludique, dans le divertissement, dans le copinage, etc. Mais c'est important d'avoir des projets de motivation. Simplement, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est qu'un projet de motivation et qu'est-ce que c'est qu'un projet d'un autre ordre. Alors, les projets d'un autre ordre, et c'est là que j'en viens à la question des programmes, parce que, comme je l'ai dit rapidement dans mon exposé, un des risques de la coopération pédagogique, c'est qu'on en oublie les bases, les programmes et les enseignements... les enseignements indispensables, il me semble qu'il faudrait trouver, de préférence, je dirais, en début d'année, des projets, ce que j'appelle des projets de sensibilisation. C'est-à-dire des projets qui mettent en évidence le besoin d'un apprentissage disciplinaire. C'est-à-dire que si on n'a pas de base disciplinaire pour approcher le projet, on se plante. Plutôt, on ne peut rien faire. Je dirais qu'à la limite, même la question, si on commence sur le développement durable comme ça en général, je veux dire, sans mobiliser des savoirs bien précis, on ne peut rien faire. Parce que alors, le problème, c'est d'inventer. Et là, il y a une remarque de Sébastien Clerc qui m'a beaucoup intéressé, c'est de dire que si d'abord les collègues connaissent plus ou moins en début d'année ce qui va se passer dans le cours des autres, ça permet d'inventer ces projets que j'appelle des projets de sensibilisation. C'est comment finalement faire prendre conscience aux élèves que si on veut travailler par exemple sur le sida, il faut savoir quelque chose sur les virus. Si on veut savoir quelque chose sur les virus, eh bien, il faut savoir quelque chose en biologie et des choses assez précises et qui ne sont pas forcément drôles à apprendre. Mais c'est important, donc, je dirais, de trouver ces projets de sensibilisation qui sont, à mon avis, par définition, des projets frustrants. Hein, c'est-à-dire montrer qu'on n'y arrivera pas si on reste dans la généralité. Et un risque, c'est qu'on reste dans la généralité et qu'on parte sur le sida, la solidarité, la générosité, et puis le tourisme en Afrique, hein, etc. Non, montrer qu'on aura besoin d'instruments et qu'il faut bosser pour ensuite revenir aux disciplines. Et puis alors, troisièmement, il y a le projet que j'appelle le projet de collaboration. Et là, c'était les panneaux solaires. Projet de collaboration, il faut déjà avoir les bases disciplinaires. On va probablement apprendre quelque chose en cours de route, mais il faudra savoir des maths, il faudra s'y connaître en coûts, il faudra savoir aussi les installer, etc. Ça, c'est le projet de collaboration qui suppose, alors là, avant, effectivement, la maîtrise de compétences et de savoir. Alors, je dirais que c'est à vous, c'est à nous sur place, c'est à vous, en équipe pédagogique, d'utiliser cette grille d'analyse en vous demandant si vous êtes dans la sensibilisation et la motivation, si vous êtes dans la collaboration, de quel ordre vous travaillez. Hein. Alors du coup, ça mènerait à la question de l'évaluation. Je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question sur l'évaluation. Est-ce qu'il y a une évaluation globale? Alors moi, je vous répondrai de deux manières. C'est premièrement, l'expérience que nous avons, nous, l'Université de tous les savoirs, dans les lycées, c'est qu'il n'y a pas un lycée pareil. Alors ça, s'il y a une chose dont vraiment maintenant, je peux vous le dire, il n'y a pas un lycée pareil. Hein. Je veux dire, l'éducation nationale fonctionne d'une manière extraordinairement homogène et il n'y a pas un lycée qui ressemble à un autre lycée. Alors il y en a des parentés, hein, bien sûr, mais n'empêche que si vous allez à Bagnères-de-Bigorre et si vous allez à Romainville, c'est pas la même chose. Hein. Si vous allez à Bordeaux, au lycée Condorcet, c'est pas le même problème que Romainville, etc., etc. Donc il n'y a pas un lycée. Donc l'évaluation, elle doit être, je dirais, non pas nationale, parce que je crois qu'on aboutirait exactement à une comptabilité en disant il y a tant de carottes, de lapins, etc. Non, elle doit être en local d'abord, voir collaboration, voir ce qui marche, ce qui marche pas, et puis peut-être en fédérant des initiatives plus locales, hein, entre plusieurs établissements qui sont proches ou qui sont dans des situations comparables. Mais il ne peut pas y avoir une évaluation, je dirais, nationale, de la même manière qu'on ne peut pas avoir des directives sur comment, et c'est bien qu'on revienne sur les composantes d'horaires, etc. On ne peut pas tout encadrer, en quelque sorte. Mais moi, je crois qu'il est extrêmement important que vous ayez cette grille de lecture sur la nature du projet, parce que effectivement ça peut partir dans tous les sens, ça peut devenir consommateur de temps et ça peut aussi n'amener à rien. Mais encore une fois, je fais cette distinction: motivation, sensibilisation aux disciplines et puis collaboration. Et alors du coup, ça renvoie à chaque fois, et je termine là-dessus, ça renvoie à chaque fois à la collaboration entre les profs, c'est-à-dire d'abord la rencontre des collègues, ensuite, mais ça visiblement ici c'est le cas, la synergie des méthodes, y compris la synergie des méthodes quand elles sont assez différentes, et puis encore une fois l'information sur les programmes, savoir en gros qu'est-ce qu'on fait avec telle classe, de manière à inventer ces projets. Mais encore une fois, je dirais que pour moi le projet qui serait le plus intéressant mais le plus difficile à monter, c'est ce que j'appelle le projet de sensibilisation, c'est-à-dire celui qui met les gens face à la nécessité de retourner étudier les disciplines pour pouvoir ensuite faire quelque chose de concret et pas seulement des moments où on est content et on se découvre et on a fait quelque chose ensemble. Voilà.
Moi, je reviens juste encore une fois parce que le résultat de votre évaluation, c'est encore une fois une perception individuelle.
Oui.
Vous dites que les évaluations sont trop différentes, etc. Enfin, avant, je veux dire, l'évaluation, elle se faisait bon an, mal an par le bac. Les gens passaient à peu près tous la même épreuve. Et voilà, là, sur des projets, je veux dire, alors à ce moment-là, on choisira pour ces mots, le BAHU aura un projet qui nous parle, qui
qui nous paraîtra peut-être moins emmerdant pour les filles d'à côté. Donc, vous nous proposez finalement, comme vous le savez, une éducation qui serait régionale. Donc là, ça pose problème.
Oui.
Je pense que le petit gamin de Bagnères de Bigorre n'est pas si différent du petit gamin qui est ici. Moi, encore une fois, c'est une perception que vous avez. C'est vrai qu'à un moment donné, on me le prouve.
Alors, si je peux me permettre, là où c'est... Alors, je ne suis pas chercheur au CNRS, donc je ne pourrais pas, moi, répondre à votre question. Mais ce qui m'apparaît très difficile dans une telle enquête que vous demandez, c'est de mesurer ce qui vient du projet, ce qui vient des cours classiques dans la réussite des élèves. Et puis, à travers un projet, se construisent aussi des éléments où on fait grandir les élèves, on les aide à s'ouvrir aux autres, et ça se mesure assez difficilement. En tout cas, ce qu'on a observé, enfin, il me semble, moi, ça fait 10 ans que je pratique des projets pluridisciplinaires, ce que j'ai observé, c'est que quand il y a une bonne alchimie entre les collègues, avec la classe, ça apporte à la classe, même pour ce qui est de l'aider à être plus concentré en cours et de mieux réussir aux examens. Quand il y a une mauvaise alchimie entre les collègues ou avec la classe, parce que c'est une classe qui est trop difficile, où les élèves ont vraiment du mal à se responsabiliser, c'est plutôt un frein, c'est-à-dire on a plus d'absentéisme sur ces heures, on galère vraiment à motiver les élèves. Et encore une fois, il me semble que la décision qui a été prise était juste, c'est-à-dire d'arrêter l'obligation en matière de projet pluridisciplinaire, tout en continuant à encourager à chaque fois que l'alchimie est positive. Pour ce qui est de préparer le projet l'année précédente, il m'apparaît que plus on a réfléchi tôt à un projet, plus on sera efficace. Aussi, pour ce qui est des éventuelles demandes de subventions, il faut pouvoir s'être renseigné par rapport au délai, et parfois c'est assez tôt qu'il faut faire les demandes de subventions. À condition, encore une fois, qu'une fois que la rencontre effective avec la classe s'est faite, on tienne compte de si l'alchimie fonctionne, si les élèves en ont envie, et qu'on ne rende pas le projet obligatoire. Ça m'apparaît très important. Important aussi dans un projet de savoir garder une limite, c'est-à-dire que 2-3 heures par semaine m'apparaissent un maximum et que le reste doivent être des heures de cours classiques, entre guillemets, même si, heureusement, les cours classiques type cours magistraux ont disparu, en tout cas des lycées professionnels, depuis un certain temps, puisque nos cours sont déjà rendus plus dynamiques, heureusement, qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, bien sûr que la grande majorité des heures doivent rester des heures de français, de mathématiques, etc. Donc qu'il faut une limite. En tout cas, il ne faut pas oublier que d'après les études, cette fois de l'OCDE, nous sommes en France l'un des pays dans le monde où les élèves ont le plus d'heures de cours proprement disciplinaires. Pour autant, nous sommes loin d'avoir les meilleurs résultats aux examens, et certains pays où les après-midi entières sont consacrées à des activités d'ouverture ont de meilleurs résultats que nous. Donc là, il y a des questions à se poser aussi, y compris sur la productivité, entre guillemets, des cours traditionnels. Pour ce qui est de votre question sur les projets extérieurs, intérieurs au lycée, je crois que le projet autour avec les Restaurants du Cœur était un projet qui s'est fait à l'intérieur du lycée, en l'occurrence. La collègue, d'accord, il y avait un partenaire qui était extérieur au lycée. En tout cas, l'objectif était à l'extérieur, j'entends. En tout cas, votre idée d'une heure sur laquelle des enseignants se proposent d'aider les élèves à avoir fait leurs devoirs au lycée plutôt qu'à la maison me semble tellement bonne que je vais en parler si vous acceptez de m'en céder une partie du brevet dans mon établissement. Voilà, ça m'apparaît effectivement une bonne idée. Dernier point, faire adhérer des élèves qui sont réticents. Alors, encore une fois, c'est dans la condition où globalement il y a une alchimie positive, où la grosse majorité du groupe a plutôt envie du projet, parce que si c'est la majorité des élèves qui traînent des pieds, encore une fois, je l'ai dit, ce qui m'apparaît, c'est qu'il faut renoncer simplement à un projet pluridisciplinaire. Mais quand c'est une minorité d'élèves, c'est souvent en trouvant la bonne responsabilisation, si vous me pardonnez le mot, qu'on va parvenir à les raccrocher au projet. Je pense par exemple à un projet dans le cadre duquel, avec un élève qui dormait tout le temps, ou s'absentait sur les heures de projet, on l'avait réintégré en faisant le caméraman du projet. Alors c'était sommaire, hein, on avait un appareil photo numérique qui faisait caméra, mais voilà, donc il avait sa responsabilité. Il y avait aussi dans le cadre du projet dont je parlais, jeu de questions, le maillon faible, il y a un élève qu'on avait raccroché au projet en s'apercevant qu'il savait très bien dessiner, et c'est lui qui avait été chargé des éléments de décor en fait pour le jeu. Il nous avait inventé même le nom du jeu, c'était The Murder Quiz. Bon, il avait fait ça avec sa calligraphie, c'était assez intéressant. Voilà des pistes, mais encore une fois, il n'y a évidemment pas de recette miracle. Hein.
Ah, il y a plein de questions. Hein. Il y a plein de questions.
Micro, monsieur.
Merci.
Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je viens de vous entendre comparer deux choses incomparables, à mon avis. Vous avez comparé les résultats des élèves français par rapport aux résultats des élèves dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont passé le même examen? Est-ce que vous êtes sûr que vous parlez de la même référence? Est-ce que c'est le même niveau? Non, je suis désolé. On ne peut pas comparer.
Oui, on prend. Il y en a plein, oui. On les prend toutes. Hein.
Allez-y, on va vous couper.
Oui, ma question reprenait un peu celle qu'on m'avait posée dans le groupe, mais en fait, j'étais un peu frustrée par la réponse, notamment peut-être plutôt en direction de M. Bichot, sur la question des disciplines. Justement, on n'arrête pas de parler ici d'interdisciplinarité. Même si on reste dans le cadre de choix très libres, si on en parle, c'est dans l'idée d'organiser des choses. Donc je ne sais pas d'abord si ça restera toujours aussi libre que ça, parce qu'à partir du moment où on décide que c'est le moyen de bien travailler, ça paraît difficile que certains le fassent, d'autres non. Et à ce moment-là, on a parlé d'intérêt, de désir. Je vais poser une question très égoïste. En tant qu'enseignant, qu'est-ce qui va me rester comme intérêt si vraiment je sens ma discipline se vider, si elle n'est plus qu'un outil au service, c'est-à-dire si je juge du français pour, moi je suis professeur de lettres, pour corriger les lettres de motivation des élèves, des choses comme ça, est-ce que, et à quel moment les élèves vont acquérir tous les savoirs théoriques, la littérature, l'histoire je veux dire, ça me fait un petit peu peur, j'ai du mal à concevoir, entre d'ailleurs le collège et le lycée, à quel moment on se met à travailler par projet, et qu'est-ce qui reste, et pour nous, pour avoir le plaisir d'enseigner, de l'intérêt de la discipline pour laquelle, après, sinon, on fait un autre... On a été formé pour un autre métier. Je passais l'agrégation lettres pour faire de la littérature. Je suis prête à faire des projets en littérature, mais j'ai peur que ma discipline se dissolve dans les projets. Comment on fait?
Bon, on écoutera votre question ensuite. Je vais répondre. Alors déjà sur l'enquête de l'OCDE, je me souviens précisément avoir lu que cette enquête ne portait absolument pas sur la réussite aux examens, mais c'était une enquête très précise sur des compétences. Est-ce que oui ou non, enfin quel est le pourcentage d'élèves parmi l'échantillon choisi dans chaque pays qui maîtrisent les règles de trigonométrie à tel âge. Donc c'était vraiment par rapport à des compétences. C'est une étude qui a été faite pour le coup d'une manière vraiment, vraiment scientifique. Et la France est plutôt en retard hein, par rapport à cette étude. Donc évidemment, ça doit nous interpeller en tant qu'enseignants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, quand j'entends « Ah ben, tiens, ça serait bien que tu rejoignes le projet, comme ça tu pourras corriger les fautes d'orthographe », ça me hérisse les poils. Hein. Bon, attention évidemment à éviter une instrumentalisation de nos matières. Je pense aussi aux collègues d'art appliqué. Hein, J'ai lu dans le très bon livre que je vous recommande de Pierre Serre, 10 projets pluridisciplinaires. J'ai lu le cas d'un professeur d'art appliqué qui expliquait que quand on lui demandait d'illustrer simplement, il refusait. et il rejoignait les projets quand il avait possibilité, avec les élèves, de voir véritablement un courant artistique, donc de retomber sur quelque chose où il va effectivement pouvoir transmettre des connaissances « nobles » entre guillemets dans sa discipline. Donc attention, je vous remercie de votre intervention, c'est important de le préciser, à éviter les instrumentalisations de nos disciplines dans le choix des projets pluridisciplinaires.
Oui. Vous vouliez poser la question ?
Oui. Oui, oui, oui. Alors, éviter l'instrumentalisation de nos disciplines dans les projets pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on me demande, en tant que professeur de français, simplement de corriger les fautes. Le français, c'est plus que cela. D'ailleurs, je ne suis pas très bon en orthographe. Hein. De la même façon, je disais à un professeur de d'art appliqué à qui on demanderait simplement de faire des illustrations à un moment donné ou d'aider les élèves à faire des illustrations à un moment donné dans le projet. Il faut véritablement que la part prise par une discipline dans un projet soit intéressante en fait pour l'enseignant et pour les élèves, que ça serve à quelque chose et qu'on puisse transmettre des connaissances effectives du programme. Est-ce que j'ai été un peu plus clair ? Merci.
Oui. Sur la question des disciplines, bon, je ne peux pas dire autre chose que j'ai essayé d'être clair, c'est que je trouve qu'effectivement, il y a un risque, je l'ai dit dans ma présentation, il y a un risque au projet, c'est qu'effectivement, on oublie les disciplines, on parte dans la discussion, et puis effectivement, qu'on instrumentalise aussi certaines disciplines. Alors, c'est par rapport à ça que je dirais qu'il est important de voir en quoi les disciplines sont indispensables, soit en tant qu'indispensables dans l'ensemble du curriculum, soit indispensables, je dirais, dans la culture. Et c'était d'où ma réaction, d'où ma petite remarque qui pouvait être choquante sur l'histoire. C'est que, par exemple, je pense que du point de vue du curriculum, aujourd'hui, l'histoire en tant que contenu n'a pas une grande importance. En revanche, l'histoire en tant que prestataire de service, là, réellement, prestataire de service, dans toutes les autres disciplines, ça serait indispensable. C'est-à-dire que si les historiens étaient susceptibles d'intervenir pour donner quelques indications d'histoire des sciences, quelques indications d'histoire de l'économie ou des conditions dans lesquelles certains phénomènes économiques se présentent. Quelques éléments, par exemple, d'histoire de la gymnastique. Alors évidemment, ça changera la discipline, ça changerait même l'enseignement, je veux dire. Mais je pense que réellement, à ce moment-là, ça serait important. C'est-à-dire qu'on a tendance, là je parle dans l'idéal, on a tendance à considérer qu'il y a un tableau des disciplines, que ces disciplines sont toutes également indispensables. Elles sont toutes également indispensables, de toute manière, parce qu'il y a des professeurs pour les enseigner, il y a des inspecteurs pour inspecter, il y a des manuels, tout est codifié. Mais en réalité, c'est ça l'esprit interdisciplinaire, pluridisciplinaire, appelez-le comme vous voulez, c'est que le poids des disciplines peut changer au cours du temps, et qu'à ce moment-là, le caractère plus ou moins indispensable d'une discipline, je pense que la littérature devrait plus revenir du côté de la culture, la dispensation de culture, plutôt, bien évidemment, il y a la dispensation de l'apprentissage du français, de l'orthographe et tout ça, mais il y a aussi la dispensation de culture. Et ça, c'est un des éléments importants, je dirais, même dans un apprentissage professionnel et surtout dans un apprentissage professionnel. Donc, ça implique de notre part certaines évolutions, ça implique des recadrages. Quelquefois, ça peut être traumatisant, hein, je dirais. Moi, je pense que c'est par rapport à ça, je vous dirais, que je faisais mes remarques sur l'histoire. J'ai rien contre. En revanche, et c'est pour ça que je peux le dire, parce qu'il y a Sébastien Clerc, moi, je pense qu'une discipline qui a repris une position très importante aujourd'hui et qui est utile dans tous les aspects de la formation, c'est la géographie, par exemple. Mais la géographie, pendant très longtemps, ça a été, je dirais, une annexe de l'histoire. Moi, quand je faisais mes études, la géographie, c'était juste une petite annexe d'histoire sans grand intérêt. Aujourd'hui, l'équilibre a changé. Alors, c'est d'où, et je reviens, je radote un peu, d'où l'importance de savoir quels sont les enjeux d'un projet, et ne pas se tromper sur les enjeux d'un projet. Si un projet est un projet, je dirais, de fédération de mise en synergie des gens, bon, ben, c'est pas la peine qu'il mange l'énergie par rapport aux disciplines. Si c'est un projet de collaboration, où on peut réellement mobiliser des approches disciplinaires, je dirais même assez pointues, à ce moment-là, oui, c'est un projet pour lequel on peut perdre du temps, parce qu'on en gagne, d'une certaine manière. Voilà. Autre question.
Oui, juste deux remarques par rapport au caractère scientifique des évaluations de l'OCDE, notamment de PISA. Il faut savoir que les items qui ont été choisis ont été élaborés en collaboration avec des enseignants de tous les pays concernés. Et c'était des items qui ont été choisis. On évalue une population de 15 ans. Donc effectivement, on peut parfois comparer des choses qui ne sont pas comparables. Les items ont été construits dans une vraie perspective collaborative. Donc c'est des évaluations qui sont, à mon sens, utiles, qui nous permettent de voir des choses qui ne sont pas forcément agréables à voir pour le système éducatif français. Entre autres, l'élève français est celui qui compte le moins sur ses camarades dans sa scolarité. Ça fait partie des études qui ont été montrées. Et les élèves français sont aussi parmi les plus stressés au niveau européen. Et ça n'a pas forcément une très bonne incidence sur les résultats. Je pense que ça nous invite à réfléchir.
Pas vraiment une question, juste une remarque. Je crois que j'avais un peu fait la même l'année dernière. Quid de la formation ? Parce que la pédagogie de projet, c'est assez passionnant. Je pense que quand on est motivé, qu'on a envie de porter des élèves, on porte les projets. Et là, je vais parler à titre personnel. Il y a parfois, c'est compliqué, parce que dans les formations initiales et dans les formations continues, on ne nous apprend pas la pédagogie de projet, c'est compliqué. La fédération est donc compliquée parce qu'on fait comme on peut, on bricole. Donc quand on est motivé, ça peut marcher, mais ça peut ne pas suffire. Et ça peut aussi démobiliser des gens très mobilisés au départ parce que c'est parce qu'on n'a pas forcément alors les outils. Voilà.
Alors je vais juste faire une petite réponse. Un, vous avez raison. Deux, sachez que de toute manière, c'est très difficile à expliquer et à former. J'ai dirigé l'école des Beaux-Arts pendant 7 ans et j'étais en rapport avec une école d'architecture à côté qui pratiquait la pédagogie du projet. Toutes les écoles d'architecture pratiquent la pédagogie du projet. Je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un projet en architecture, mais apparemment ils arrivaient à en faire. Hein. Donc dites-vous bien aussi que c'est en partie aussi sur le tas, hein, je veux dire, que parce qu'on ne peut pas vous formater ces choses-là. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Je ne veux pas trop en demander. Mais enfin, Sébastien Clair,
peut-être. Cela dit, en formation initiale, on pourrait tout à fait travailler sur l'interdisciplinarité. C'est extrêmement rare, quasi.
Bien sûr.
C'est quasi jamais.
Bien sûr.
Donc là, on pourrait faire, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus également.
Bon.
Y compris sur les sciences de l'éducation et pas seulement sur le disciplinaire.
Alors, je reprécise que je vais avoir un échange poli avec M. Michaud après notre intervention. Alors, je vous rejoins tout à fait. Pour moi, ce qui fait qu'on s'arrache les cheveux quand on débute dans ce métier, je parle de souffrance. Hein, mes premières années ont été une souffrance, surtout que j'ai connu le début des PPCP, des projets pluridisciplinaires. On nous a dit, vous faites des beaux projets avec vos élèves, sans rentrer dans les détails. Il y avait des instructions officielles qui étaient imbuvables, truffées de termes très techniques. Voilà. Et une fois qu'on avait pris le dictionnaire pour essayer de comprendre, on s'apercevait que c'était du vent. Et en fait, on nous a laissé nous débrouiller avec les élèves. Et une fois qu'on l'a fait et que certains ont réussi bon an mal an à faire des choses intéressantes, on a pu nous dire ah ben voilà, c'est ça qu'on attendait. Bon, ce qui est vraiment bon. Moi, ce qui me fait m'arracher les cheveux par rapport, vous parlez de la formation des enseignants, c'est qu'il y a quantité de choses dans le métier d'enseignant où sous prétexte qu'il n'y a pas de recette miracle, ce qui est vrai, on se prive de parler de quantité de pistes de solutions qui font que globalement, après 10 ans d'enseignement, on s'en sort mieux que durant ces premières années. Alors, c'est valable bon, pour ce qui vraiment me tient à cœur, la question de la tenue de classe. Hein, toutes les techniques concrètes quand un début de bavardage s'installe, quand un élève est insolent, etc., pour capter l'attention des élèves. C'est valable également pour ce qui est des projets. C'est-à-dire qu'à l'IUFM, finalement, on m'a bien appris la partie travail à la maison de mon métier, c'est-à-dire fabriquer des cours, choisir les documents, etc. Mais le métier en lui-même, on ne me l'a pas appris. Alors, c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur le terrain, mais c'est très insatisfaisant de laisser les gens recommettre les mêmes erreurs qu'on a commises avant eux pour découvrir le bon équilibre subtil. On nous ferait gagner beaucoup de temps si on nous apprenait à travailler en projet pluridisciplinaire dans les formations, la formation d'enseignants. C'est pour ça que je suis bien sûr tout à fait opposé à une disparition des IUFM. Je ne fais pas partie de ceux qui crachent sur l'IUFM d'une manière générale. J'ai bien appris ma partie travail à la maison du métier à l'IUFM, mais je pense qu'il faut revoir la formation des enseignants pour la rendre plus concrète sur le terrain. Comment on fait pour remotiver des élèves qui décrochent par rapport à un projet? Comment on échange avec des élèves difficiles, etc.
J'aurai la question de M. Aiello qui n'a pas complètement été traité.
Oui, je souhaiterais savoir, en fait, on parlait de projet, ce qui est très bien, mais en ce qui concerne le temps personnel, quel est le temps que vous consacrez en moyenne pour l'élaboration d'un projet?
Alors, je vais éviter la pirouette quand on aime, on ne compte pas. Je vais insister. Bon, il y a un principe qu'on découvre au fur et à mesure des années, c'est que dans ce métier, il faut faire attention à ne pas se faire manger, ça c'est vrai. Hein, et je pense que un projet dans l'année, vous voyez là cette année j'ai un projet relativement léger, hein, celui dont je parlais, la bonne secrétaire, la mauvaise secrétaire. Bon, je me repose un peu aussi du projet Burkina qui a été qui a pris beaucoup de temps. Un projet dans l'année c'est bien. Je me suis retrouvé parfois dans mon emploi du temps avec trois projets pluridisciplinaires. Bon, là ça mange complètement. Donc il y a une limite bien sûr qu'il faut savoir poser aussi pour se préserver. Les élèves ont besoin d'un enseignant qui en forme, hein, notamment les classes un peu difficiles. Mais ce qui va un peu s'opposer à ce que je viens de dire, c'est qu'il y a aussi ce principe que dans ce métier, c'est souvent si on veut consacrer le moins de temps possible au métier qu'à la fin de la semaine, on est le plus fatigué. Et je pense par exemple à des collègues, alors j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous parce que je ne veux pas me faire d'ennemis, mais je pense à des collègues qui insistent tous les ans pour avoir un emploi du temps sur 3 jours avec 8 heures de cours par jour et qui se retrouvent, alors bon, il y a de très bonnes raisons pour pouvoir retourner en province, etc., mais qui se retrouvent sans un temps pour pouvoir voir les parents d'élèves, assurer le suivi, rencontrer les élèves et faire un petit peu d'activité dans le lycée, rencontrer des collègues ou trop peu de temps. Et je suis convaincu que c'est davantage épuisant que de venir au lycée presque tous les jours de la semaine et de faire le travail pédagogique. Donc il y a un peu ce paradoxe aussi où si on cherche trop à économiser son temps, au final, eh bien, les semaines sont plus épuisantes parce qu'on n'a pas le même rapport avec les élèves.
Hein. C'est l'heure. Hein.
Il y a une question. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je tiens à dire que je ne connaissais pas Sébastien Leclerc avant aujourd'hui. Je n'ai pas d'action à ce qu'il a dit. Donc, je vous remercie beaucoup tous les trois. Et je vous remercie à tous. Et bonne soirée. Bonne fin de journée.